Bien, écoutez, bonjour, bonjour à tous. On va commencer cette conversation. Bonjour à tous, merci de votre présence, toujours très nombreuse. Ça fait plaisir de vous retrouver en grand nombre pour cette conversation en compagnie de Ferhat Alani, de Marissa Glio et de Yann Lespousse. Bonjour à tous les trois et bienvenue parmi nous. Très heureux de vous retrouver pour parler avec vous, bien sûr, de vos romans sélectionnés cette année dans le festival du premier roman. Des livres qui nous font beaucoup voyager dans le temps et dans l'espace, dans l'histoire et dans la géographie, pourrait-on dire, dans des lieux que vous connaissez bien les uns et les autres pour les avoir fréquentés soit d'un point de vue personnel, soit comme objet d'étude, et des lieux que vous transformez en des matériaux littéraires, dans des romans. On va donc s'interroger avec vous pendant cette conversation sur la manière dont vous avez précisément fait ce passage au roman, avec des questions qui iront très bien sûr au travail de documentation, au réel, à la manière dont vous mettez ça en jeu avec des éléments d'invention et de fiction, réfléchir avec vous bien sûr sur les structures narratives, sur la langue, sur la manière dont vous avez construit ces romans pour mettre en avant ces lieux et ces enjeux que vous connaissez bien. Et puis on va aussi beaucoup parler bien sûr des personnages, puisque le propre du roman est peut-être précisément d'ancrer ces réalités plus larges, sociales, politiques, historiques, dans des intériorités, dans des vies minuscules, dans des personnages qui montrent que précisément ces destins individuels sont toujours en lien avec des contextes historiques, politiques ou sociaux. Voilà un peu le menu de cette conversation. Je vais vous présenter rapidement les uns et les autres, en commençant par vous, Ferhat Alani, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup de votre présence. Vous êtes journaliste, vous êtes grand reporter, vous êtes né en France au début des années 80 de parents irakiens, je précise évidemment cela puisque ça a un rôle important dans ce livre dont on va parler. Vous avez très longtemps travaillé autour de ces sujets, réalisateur de documentaires, et vous aviez publié un livre qui s'intitule Le parfum d'Irak, qui vous avait valu un beau prix, le prix Albert Londres. Vous publiez donc ce premier roman qui s'intitule Je me souviens de Fallujah, qui est en fait une sorte de huis clos, alors un huis clos avec des ouvertures, hein, on y reviendra, un dialogue entre un père qui s'appelle Rami, qui est un exilé irakien en France, et son fils, Euphrate. On verra bien sûr ce lien à l'alter ego peut-être littéraire, ce personnage d'Euphrate qui lui est né en France au début des années 80. Il y a donc bien sûr une correspondance à ce niveau-là, un livre qui parle à la fois du rapport père-fils et qui parle aussi, me semble-t-il, plus globalement de l'histoire de l'Irak, d'un certain nombre de points que vous remettez au jour à partir de ce huis clos et de ce dialogue. Juste à côté de vous, Marissa Glio, bienvenue à vous, chère Marie, anthropologue, enseignante à l'INALCO, spécialiste de l'Inde, et en effet, je le disais, un objet de recherche que vous avez transformé en un roman qui s'intitule Bombay, paru chez Serge Safran, un livre dans lequel vous nous plongez précisément dans cette ville de Bombay, et en particulier dans ce bidonville, dans cette déchetterie de Gandapur. On reviendra précisément sur ce lieu qui est un lieu symbole à la fois de la ville, peut-être de l'Inde en général, et un lieu qui, à travers des personnages, va nous révéler un certain nombre de réalités à la fois écologiques, politiques, religieuses, sociales, comme je le disais, et notamment à partir de ce personnage de Shiv, qui est un Indien qui est parti à Londres et qui revient. Et c'est évidemment dans le regard de ce personnage aussi qu'on va découvrir cette ville et, en l'occurrence, des choses qui nous paraissent sidérantes, mais qu'on découvre dans votre livre et qui sont sans doute très proches de la réalité. Et enfin, vous, Yann Lespousse, historien, professeur de civilisation occitane à Montpellier, à l'université Paul Valéry. Vous publiez un premier roman au titre magnifique, Pour mourir le monde, aux éditions Agulot, un livre qui part et qui s'achève presque, hein, parce qu'il y a encore un petit peu de place après, dans les marais du Médoc, avec ce naufrage de la flotte portugaise. On est en 1627, c'est le point de départ du livre, effectivement, un naufrage colossal avec énormément de bateaux, énormément de gens, énormément de richesses à bord, et c'est à partir de ce naufrage que vous allez décliner une histoire, là aussi avec un certain nombre de personnages, qui vont nous emmener à Salvador de Bahia au Brésil, qui vont nous emmener à Goa en Inde et qui vont nous permettre de comprendre un certain nombre de points dans une époque qui est à la fois le temps de l'Inquisition, des frictions religieuses, le temps de la conquête évidemment et le temps de la colonisation. Donc voilà, tout un tas d'éléments qu'on comprend aussi au fil de ce livre. Voilà pour une intro un peu au pas de course, mais je voulais rapidement vous donner la parole aux uns et aux autres. Peut-être, Yann, une petite question très simple d'introduction. Je le disais, le livre démarre par ce naufrage absolument spectaculaire. Je dis qu'il s'achève par celui-ci, on ne va pas tout révéler, il y a un petit peu de marge derrière, mais c'est aussi finalement la manière de refermer le livre. Question très simple, est-ce que c'était ça le point de départ? Est-ce que ce naufrage est vraiment le déclic du passage au roman? Et peut-être nous dire un mot de la manière dont vous avez eu connaissance, comment vous avez travaillé sur cet événement en particulier.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Ce naufrage, oui, c'est vraiment le point de départ, effectivement, parce que ça commence dans le cadre de mes recherches. Voilà, pour mon travail, je suis en train de faire des recherches et je regarde des cartes de Claude Masse, qui était le cartographe de Louis XIV et qui avait été chargé de cartographier la côte de La Rochelle à Bayonne au cas où les Anglais, que l'on sait fourbes, auraient tenté un débarquement par là. Et donc, il fallait trouver des endroits où il fallait faire des ouvrages défensifs. Et dans le Médoc, il s'est aperçu qu'il n'y avait pas besoin de faire d'ouvrages défensifs parce qu'il y avait déjà des dunes et des marais et que c'était suffisant. Mais il y avait une dune à un endroit avec une annotation où il était écrit, en gros, dune de la Carac, donc la Carac, c'est gros bateau de commerce portugais. Ici s'échoua une flotte avec d'immenses richesses et un prince, et les survivants furent massacrés par les habitants. Voilà. Et donc c'est parti de là. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un événement dont je n'avais pas entendu parler. Donc j'ai commencé à chercher et à m'apercevoir, donc à prendre connaissance de l'histoire de ce naufrage immense, effectivement, qui a été une catastrophe nationale pour le Portugal, et qui n'est pas resté dans la mémoire française, en tout cas. Et je me suis dit qu'il y avait là voilà, un matériau romanesque assez exceptionnel. Et voilà, j'ai commencé à tirer ce fil. Et en tirant ce fil, on se retrouve sur la route des Indes. Et de la route des Indes, on se retrouve à Goa, on se retrouve à Salvador de Bahia. Et comme voilà, j'ai commencé à tirer ce fil en 2020, au début de l'année 2020, je me suis retrouvé à un moment enfermé chez moi, comme tout le monde, et en me disant, c'est le moment ou jamais de se lancer. Voilà.
Et de voyager par la littérature.
Et de voyager par la littérature. C'est-à-dire que moi, j'ai passé mon confinement entre Goa et Salvador. C'était pas mal.
Oui, et c'est assez exceptionnel. En effet, les autres étaient plus immobiles. Peut-être un petit mot tout de suite sur la manière dont vous avez travaillé, puisque évidemment, quand on lit le livre, on le dévore comme ça, comme un roman. Et puis après, on va chercher les noms. Est-ce qu'il y a des noms réels? Est-ce qu'il y a des noms inventés? On va parler des différents personnages, et notamment Diogo, et notamment Marie, qui sont des personnages, les héros du livre. Et puis, il y a un certain nombre d'autres personnages, comme ce personnage de Menezes, que vous évoquez d'ailleurs à la fin du livre, qui sont des personnages réels. Comment est-ce que vous avez articulé ces dimensions-là, peut-être nous parler de Menezes en tant que tel, puisqu'il y a des écrits, et puis comment est-ce que vous avez articulé le travail plus fictionnel de création de personnages autour de personnages ayant existé, comme on dit au cinéma?
Oui, parce que Menezes aussi, il est un peu à l'origine, parce que c'est du roman, parce que c'est lui-même un personnage extrêmement romanesque. Voilà, c'est quelqu'un dont on sait qu'il a été cosmographe du roi, qu'il appartenait à la haute noblesse portugaise. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé à la tête de la flotte. À l'époque, c'était vraiment un titre honorifique de se retrouver à la tête de la flotte. Il n'y avait pas besoin d'être compétent. Et lui, en plus, il était compétent. Mais il avait un caractère très particulier. Il mettait avant tout en avant le point d'honneur, l'honneur portugais. Et c'était quelqu'un d'extrêmement rigide. Jusqu'à, alors je vais pas leur raconter parce que je pense qu'il y a des gens qui étaient déjà là hier, mais jusqu'à effectivement faire couler son bateau par les Anglais plutôt que de baisser la tête devant eux et de devenir comme ça un héros national. Donc je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose. Et puis dans cette histoire, dont on a le rapport du naufrage qui a été fait par Menezes juste après, parce qu'il devait quand même rendre des comptes pour expliquer comment il avait perdu l'intégralité de la flotte de guerre du Portugal en quelques semaines. On a un autre récit qui est l'épanafort tragique de Francisco de Melo, qui était embarqué avec Menezes et qui a écrit ce poème, ce texte poétique, quelques décennies après. Mais en fait, on a tout un tas de blancs dans cette histoire. on a des blancs dans la biographie de Ménécès, et tout ça, c'est ce qui permet de faire entrer le romanesque. Moi, en tant qu'historien, quand j'ai ce genre de blanc, je peux juste dire, je ne sais pas. Il faut chercher des sources, mais là, on ne les a pas. En tant que romancier, je peux me dire, c'est ici que je vais m'introduire et que je vais laisser aller mon imagination. Donc ça a été, ça s'est passé comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de documentation aussi. Mais il y a des personnages réels, il y a des personnages qu'on invente, et même les personnages réels, on les invente en partie, on les réinvente.
Dernière chose avant de me tourner vers Marie, peut-être sur le genre aussi du roman d'aventure maritime, qui est presque un genre en soi. J'imagine qu'il y a aussi un héritage littéraire de cet ordre-là. Je vous disais hier qu'il y avait cette dimension de roman d'aventure maritime, que dans toute la partie qui était liée aux marais occitans, les marais du Médoc, il y avait quelque chose qui était de l'ordre du western. C'est aussi presque une manière de s'inscrire dans des genres littéraires en tant que tels, dans un héritage littéraire du roman d'aventure maritime, du western ou de ces dimensions-là ?
Oui. Et puis, c'est tout simplement ce que j'avais envie de lire et d'écrire à ce moment-là. Voilà, moi, je suis un grand lecteur de romans noirs. J'aime bien la littérature de genre, d'une manière générale. Je suis un grand lecteur de romans noirs, de romans d'aventure, de western. Et j'avais envie de m'essayer à cet exercice du roman d'aventure. Et puis, voilà, je pense que j'avais tout simplement envie de m'évader aussi. Et je trouvais que c'était le meilleur vecteur pour partir.
On va revenir bien sûr à toutes ces questions. Je vais me tourner vers vous, Marie, peut-être pour une question aussi du même ordre que celle que j'ai posée à Yann en introduction. L'Inde est votre sujet d'étude visiblement depuis longtemps. Il y a une manifestation visiblement. Hein. On va essayer de poursuivre. Peut-être nous dire un mot de la manière dont vous avez eu envie justement de venir au roman. Je donnais quelques pistes en introduction. Est-ce que pour vous, c'était une manière précisément de ramasser, de rendre vivant, d'incarner tout un tas de sujets sur lesquels vous avez travaillé ?
C'est une manifestation importante. Écoutez, oui, bien sûr. Je ne sais pas si on s'entend. Vous m'entendez, non ? Peut-être qu'on peut attendre une minute ? Oui ? Oui ? D'accord. Donc, effectivement, après avoir travaillé pendant une trentaine d'années directement en Inde et vécu dans les lieux du livre, hein, je voulais pouvoir, à un moment très particulier, qui est un moment aussi historique, vous savez qu'on est en pleine élection en Inde, que ce pays a basculé dans une forme d'autocratie en quelques années. Et mon souhait était de trouver une manière de rendre très vivant, l'héroïne du livre, qui est Bombay. Autrement dit, la transformation d'une ville avec ses violences et tous ces enjeux aujourd'hui, qui sont des enjeux d'inégalité sociale, et en même temps, c'est une ville d'une vitalité absolument exceptionnelle. Et donc, mon idée était d'arriver à l'intérieur de la petite histoire, essayer de revenir sur la grande histoire de l'Inde, finalement. On en est à un moment, je crois, à un jalon. Et ça me touche beaucoup ce que vous avez dit sur le travail de l'historien, c'est-à-dire que je suis anthropologue, je suis universitaire, j'ai besoin de mes sources pour travailler. Et c'est vrai que quand on passe à la fiction, on est dans une dimension complètement différente où ce qu'on va pouvoir rendre à travers les personnages, à travers le temps, à travers le bruit, les odeurs, les émotions, etc., tout ce que permet la fiction portée par l'histoire des personnages est finalement un traitement très différent de la réalité, mais probablement aussi beaucoup plus sensible, beaucoup plus direct. Et c'était l'enjeu de ce livre. Pour moi, ce qui l'a déclenché, c'est bien sûr ce que vit aujourd'hui l'Inde.
Peut-être tout de suite dire un mot peut-être du héros. Il y a énormément de personnages et on va bien sûr passer de l'un à l'autre au fil de la conversation. Mais il y a ce personnage de Shiv qui est un personnage, comme je le disais en introduction, qui est né en Inde, qui est parti, qui est devenu un professionnel de l'écologie et qui est ramené, qui est renvoyé par son entreprise pour essayer d'assainir cette grande décharge. Est-ce que précisément ce personnage qui est à la fois du dedans et du dehors, de quelqu'un qui revient, vous permet permettait de regarder les mutations, les changements. Comment est-ce que vous l'avez envisagé, ce personnage-là, qui est une sorte de témoin ou de guide, finalement, et qui est de retour au pays, ce qui n'est évidemment pas anecdotique, me semble-t-il.
Alors, bien sûr, pouvoir le faire revenir en Inde permet ce regard, hein, et ce regard critique. Mais Shiv, c'est aussi un personnage en creux pour moi, c'est-à-dire c'est un personnage éponge qui va se reprendre une Inde qu'il avait mal comprise finalement. Hein. Et c'est un personnage qui est finalement pas si passionnant par rapport aux autres personnages. Et ce qui m'intéressait, c'était notamment les femmes dans ce livre. Que du coup Shiv met en valeur en les rencontrant, en essayant de comprendre aussi leur rébellion, leur réaction face à cette Inde qui gronde, une Inde patriarcale, une Inde violente, une Inde des castes, une Inde où les religions ne permettent pas un certain nombre de choses. Et donc ce personnage, j'ai fait des études de littérature, pas d'anthropologie, et j'ai toujours été très marquée par Flaubert et par son Frédéric Moreau dans L'éducation sentimentale, qui est quand même un personnage qui est un peu un ventre mou dans l'histoire, mais qui va permettre de suivre tous les autres personnages et dans cette espèce de roman d'apprentissage, parce que c'est aussi quelque part un roman d'apprentissage, cette histoire de Shiv qui revient dans une Inde qui brûle ou dans un Bombay qui explose. C'était un personnage qui me permettait, par ce regard à distance, par ce côté éponge aussi, il est très sensible, hein, ce jeune homme, de comprendre ce qui se passe.
Encore une question sur le lieu, puisque j'ai fait la même chose que ce que j'ai fait avec le roman de Yann. J'ai cherché, après avoir lu votre livre, ce bidonville de Gandapur, et je ne l'ai pas trouvé. Donc peut-être nous dire un mot de la manière dont vous avez travaillé autour de ce lieu. Est-ce que c'est la réunion de plusieurs endroits? Est-ce que c'est une manière vraiment allégorique de montrer une décharge, le bidonville, et ce lieu où se jouent toutes les tensions de l'Inde contemporaine? Comment vous envisagez ce microcosme comme une allégorie, comme un lieu réel, comme une concentration de plusieurs lieux? Comment est-ce que ça marche?
Alors, Gandapur, ça veut dire en hindi, Ganda, c'est sale, et Puri, que vous trouvez, c'est la ville. Donc, Gandapur, c'est la sale ville. Et je me suis aperçue qu'il n'y avait pas de Gandapur en Inde, ce qui est tout à fait d'ailleurs étonnant. Il aurait pu y avoir des Gandapur en Inde. Gandapur, c'est en fait une métaphore de Dharavi, qui est un bidonville sur lequel j'ai travaillé pendant 20 ans et sur lequel j'ai écrit deux monographies très sérieuses en anthropologie. Voilà, où tout est vérifié. Et Gandapur a été considéré pendant longtemps comme le plus grand bidonville d'Asie du Sud. Donc c'est un monstre d'1 million d'habitants dans lequel on n'entrait pas il y a 30 ans. Donc moi j'ai mis les pieds en 92. 92 c'est l'année qui a fait basculer l'Inde dans la violence hindouiste. Hein. C'est le début de la destruction de la mosquée d'Ayodhya. C'est ce moment où l'hindouisme radical décide que les minorités, notamment les musulmans, et les chrétiens, je tiens à le dire, parce qu'en Occident, on oublie juste que c'est toutes les minorités dont il s'agit, vont considérer comme étant des citoyens de seconde zone, sachant que ce sont les hindous qui sont les indiens. Et donc, dans ces bidonvilles qui sont... Pour moi, la question de la zone de déchets est absolument centrale en Inde. Pourquoi ? Bombay, c'est la moitié de sa population sur 8% de son territoire qui vit dans des bidonvilles. Donc la question de ces zones qui sont sur le papier des zones de non-droit sont en fait le cœur de la ville. C'est le cœur de la ville qui travaille pour l'autre ville. Et c'est passionnant de partir de là. Il y a des formes de sociabilité qui sont extrêmement puissantes. Et je souhaitais donc repartir de ce que moi je connais de Dharavi, le très grand bidonville de Bombay. Il est très connu, pour l'appeler donc cette fois-ci Gandapur. Et effectivement, y concentrer toutes les forces qu'on peut voir à côté. J'ai aussi beaucoup travaillé dans la décharge d'Akyoté, qui a effectivement brûlé. Dans les livres, elle brûle. Hein. Il y a tout un monde. Il y a la question, évidemment, de l'abattoir. Vous savez ce qui se passe en ce moment autour des vaches sacrées en Inde. La question de ce lieu, Gandapur, est effectivement, comme vous le dites très bien, un lieu de concentration, on va dire, de toutes les problématiques réinstrumentalisées par une forme de politique agressive et dangereuse, en réexploitant tous les mythes, finalement, de l'Inde pour y concentrer quelque chose, sachant qu'à nouveau, le lieu du bidonville n'est pas du tout anomique, hein, en Inde. Ça fait partie de la ville, finalement. Donc c'était pour moi rentrer aussi dans ce qui fait le cœur, le ventre. C'est le ventre de Bombay.
On va y revenir, évidemment. Je vais me tourner vers vous, mon cher Ferhat, pour évoquer peut-être avec vous les deux dimensions que j'ai données en introduction, et peut-être pouvez-vous les préciser ou les ajourner. Je disais qu'il y avait à la fois une dimension familiale, hein, entre un dialogue entre ce père et le fils, le père qui va raconter finalement son enfance en Irak, le fils qui va raconter sa vie en France, ce que le père est en train d'oublier, d'ailleurs, petit à petit. Il y a la dimension familiale, et puis il y a la dimension plus large de la mise au jour ou de la une manière de réexplorer finalement l'histoire de l'Irak. Est-ce que cette mise en place narrative romanesque était aussi dans cette dimension-là, dans cette double échelle individuelle, familiale et puis plus large au niveau de l'Irak en tant que tel?
Bonjour à toutes et à tous, et merci pour ce beau temps d'ailleurs, merci. Une petite remarque, je suis agréablement surpris de constater qu'en fait, nos trois livres parlent d'un naufrage. Le naufrage de bateau, le naufrage d'une démocratie, si je puis dire. Et pour moi, c'était un naufrage familial, c'était dans ma vie réelle, le décès de mon père, qui a précipité, si vous voulez, l'écriture de ce roman. Alors pourquoi un roman ? C'est parce que, en tant que reporter, je ne me voyais pas faire une enquête réaliste sur mon père. Je ne dirais pas légitime, mais pas prêt à aller ouvrir des dossiers et des choses comme ça. Et donc, j'ai voulu partir de ce naufrage familial pour rendre hommage à un homme qui était mon père, mais qui représente aussi un pays, l'Irak. Et réflexe de journaliste, même si c'est un roman, j'ai tenu à ce qu'il y ait en toile de fond l'historique de l'Irak, avec un jalonnement d'événements qui me semblait inexistant dans le traitement de l'actualité en Irak. Donc ça a été, si vous voulez, une couche très importante pour moi, peut-être une deuxième couche, si vous voulez, que j'ai essayé de parsemer dans le récit. Et pour répondre concrètement à votre question, la part du réel, elle est d'abord, encore une fois, dans ce naufrage, mais elle est aussi dans la manière dont j'envisageais, moi, mon père. Et c'est pour ça que les personnages, finalement, ne sont pas si éloignés de la réalité. Donc moi, je m'appelle Ferhat. Ferhat, en arabe, c'est l'Euphrate. Et vous l'avez mentionné, le personnage du roman s'appelle Euphrate. Donc j'assume tout à fait ce qu'on appelle aujourd'hui l'autofiction. Mais pourquoi un roman ? Concrètement, c'est parce que, avec mon père, j'avais énormément de questions qui étaient restées sans réponse. Mon père était un grand taiseux, un silencieux, comme beaucoup de réfugiés qui ont fui la guerre ou une dictature et qui ont débarqué dans un pays d'accueil avec ce que lui appelait la valise invisible, pleine de traumas, pleine d'expériences difficiles, qu'il a eu du mal à me transmettre. Et donc, je ne me voyais pas écrire autre chose qu'un roman, dans le sens où j'ai essayé moi-même de répondre aux questions auxquelles je n'avais pas eu de réponse. Et c'est pourquoi la fiction m'avait semblé être le meilleur outil. Et au-delà de l'histoire de l'Irak, évidemment, il y a des thématiques, j'espère, qui sont claires là-dedans. La transmission, l'héritage père-fils, mais ça peut être mère-fille, mère-fils, peu importe. Mais une thématique universelle, je pense, qui nous concerne tous. Et donc, même si ça parle de l'Irak, même si le mot Fallujah est dans le titre, j'espère que ce n'est pas perçu uniquement comme un livre sur l'Irak, mais que des lectrices et lecteurs puissent se reconnaître à travers différentes thématiques dans cette histoire. Il y a aussi l'identité, la double culture, enfin, il y a énormément de choses. Et la mémoire. La mémoire m'obsède, comme beaucoup d'auteurs, je pense, peut-être. Et c'est pour ça que l'outil de l'amnésie, pour le coup, je l'ai inventé. Et j'ai voulu utiliser l'amnésie pour raconter la mémoire.
Ouais, c'est intéressant parce que c'est l'amnésie, la mémoire et l'oubli. On pourrait ajouter le silence, finalement, qui est à l'œuvre dans ce livre et qui est à l'œuvre, là aussi, me semble-t-il, à deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a le silence du père, finalement, sur ce qu'il a vécu dans sa jeunesse. Et peut-être tous les enfants découvrent, après la mort des parents ou sur la fin de vie, ce qu'a été la jeunesse des parents. Et puis, il y a de l'autre côté le fils qui, lui, va raconter l'exil. Donc, c'est une espèce de double mouvement. La parole n'est pas seulement la parole du père vers le fils, mais aussi la parole du fils vers le père, notamment vers la manière justement de vivre la double culture, etc. C'est un double mouvement.
Oui, exactement. Pardon, je n'ai pas répondu à cette partie de la question.
Je vous en prie.
Tout part d'une discussion, effectivement. D'une discussion entre un père et un fils. Un père qui ne reconnaît pas vraiment son enfant un père qui perd la mémoire, mais qui se souvient quand même de son enfance. Et donc plutôt, effectivement, vous l'avez bien souligné, plutôt que raconter l'histoire du père à travers le regard du père, j'ai voulu instaurer une discussion également pour faire des allers-retours. J'ai rien inventé, hein, mais des allers-retours dans le temps, et c'est la raison pour laquelle il y a trois temporalités. J'ai beaucoup travaillé sur la, comment dirais-je, sur le fait que ce soit pas trop compliqué à suivre, parce que il y a le passé du père, il y a le passé du fils, et puis il y a la discussion dans la chambre 219 de cette clinique Bizet où le père va finalement mourir. Et ça m'a permis justement, encore une fois, dans cette idée de, je sais pas si on peut dire fictionnaliser le réel. Ça m'a permis de jouer avec la mémoire, de jouer avec, avec le temps, en fait. Ça m'a semblé très important.
Yann, peut-être je vais revenir vers vous pour parler un peu des personnages. On a évoqué Ménézès, les personnages réels. J'ai parlé des trois autres personnages. On va peut-être les détailler. Mais d'abord, peut-être dire un mot de ce qui est en exergue du livre, de ce titre, Pour mourir le monde. Ce livre, c'est aussi un livre de mouvement, un livre qui dit la manière dont on s'émancipe de l'endroit où on est né, de la façon dont on acquiert une certaine liberté, la façon dont on reste aussi aux endroits, les deux pieds dans le marais où on est né. Peut-être nous dire un mot de cette très belle citation, de ce très beau titre, parce que l'histoire de ces personnages, c'est aussi ça, c'est l'histoire d'un mouvement ou d'une possible ou d'une impossible émancipation d'une certaine manière.
Oui, oui, le titre il vient d'un poème d'Antonio Vieira qui était un prêtre jésuite de cette époque-là, du XVIIe siècle, et qui a écrit un poème donc sur ce qu'est le Portugal de son temps. Et donc il explique, voilà, c'est... pour naître le Portugal et pour mourir le monde. Ça finit comme ça. Et je trouvais que ça résumait assez bien l'esprit portugais de cette époque-là, cet empire maritime qui essaie d'être en constante expansion, et le destin des personnages, voilà, qui sont effectivement des personnages qui ont un destin qui leur a été assigné dès la naissance. C'est une époque où normalement, voilà, on change pas de, on change pas de classe, même si c'est un peu anachronisme de parler de classe sociale à ce moment-là, mais on change pas. Si on est dans le Médoc, on est censé y mourir. Si on est paysan, on va finir paysan. Fernando, il est né dans une famille pauvre et il est enrôlé de force pour devenir soldat en Inde. Et il n'est pas censé revenir de là-bas, le destin lui a été assigné. Diogo au Brésil, c'est la même chose. Il est orphelin, il est fils de juifs convertis qui ont été expulsés du Portugal pour aller s'installer à Salvador de Bahia. Et lui non plus, il n'est pas censé changer, il est censé normalement... naître, vivre et mourir au Brésil. Mais chacun à sa manière dit « j'ai pas envie de ce destin et je vais essayer d'aller contre ce que la vie devait normalement me réserver, ce que la société dans laquelle je vis, le monde dans lequel je vis m'a assigné. » Et c'est des personnages qui vont comme ça essayer de se réaliser. Vraiment, de cesser de courber les chines, de relever la tête et de se dire après tout, tout est possible pour moi, il n'y a pas de raison.
Le contexte, je le disais en introduction, et notamment on le voit avec le personnage de Diogo, avec le lien à la colonisation portugaise, à la colonisation néerlandaise également, il y a ce contexte-là, bien sûr, de la violence des hommes sur les hommes, hein, liée à la colonisation, et puis il y a la violence interreligieuse, vous avez évoqué cette question des juifs convertis au catholicisme, il y a évidemment quelque chose, et on en reviendra aussi en Inde quelques siècles plus tard, chez Marie, avec encore ces frictions-là, c'était des enjeux que vous aviez envie d'évoquer, qui sont évidemment au cœur de cette époque-là.
Oui, alors je les évoque essentiellement parce qu'ils sont au cœur de cette époque-là et que naturellement, ils vont aussi forger le regard que les personnages portent sur le monde. Donc, on peut pas s'en extraire quand on parle du XVIIe siècle portugais. En particulier, c'est l'Inquisition de Goa est vraiment une institution redoutable. Et autour de Goa, de ce bout de terre portugais et chrétien officiellement, hein, puisqu'en fait la très très grande majorité des habitants de Goa ne sont pas du tout chrétiens. Les Portugais sont minoritaires. À cette époque-là, il faut comprendre que Goa, c'est quelques milliers de Portugais seulement qui sont là et qui, lorsqu'il y a des fêtes religieuses notamment, par exemple, ne se réunissent jamais tous ensemble pour ne pas montrer aux Indiens à quel point ils sont peu nombreux et à quel point les Indiens pourraient se retourner contre eux très facilement. Et donc ils vivent dans un monde dans lequel il y a des hindous qu'ils appellent les gentils à l'époque et des musulmans. Et ce que va faire Fernando en particulier, c'est jouer justement sur ces questions de pouvoir politique et religieux en passant d'un monde à l'autre et d'une religion à l'autre, puisqu'il va devenir un renégat, il va partir se mettre au service de l'Adil Shahi à Bijapur. Et là aussi, ça fait partie de cette manière de prendre son destin en main et malgré le carcan religieux, quitter le carcan de la religion chrétienne pour rejoindre Bijapur et puis à un moment, quitter le carcan religieux musulman de Bijapur pour essayer de revenir et tracer sa route là-dedans.
Marie, peut-être pour enchaîner, on peut dire un mot de cela. On est évidemment quelques siècles plus tard et les enjeux sont différents. Mais ce que vous avez évoqué tout à l'heure autour de Grandapur, c'est aussi cette dimension-là, les frictions de classe, de caste, les frictions interreligieuses, la question sociale, la question économique, puisqu'il y a évidemment ces chiffonniers, ces recycleurs, des gens qui vivent aussi des déchets d'une certaine manière. C'est vraiment le laboratoire finalement de l'Inde. C'est un endroit où toutes ces frictions se retrouvent de façon extrêmement aiguë. Peut-être vous pouvez développer cette dimension-là.
Absolument. Et la violence ne vient pas nécessairement de là où on croit, en fait. Dans le livre, il y a des histoires terribles, hein, qui se passent notamment autour des jeunes femmes. Et la violence, c'est pas là où on l'attend. Ce qui est une particularité de cette Inde ou d'autres formes de sociabilité, ce qui est toujours frappant. J'ai beaucoup travaillé au Brésil aussi, c'est mon deuxième terrain, entre guillemets, et j'ai toujours été très frappée dans l'équivalent des slums indiens, où vous avez des favelas au Brésil. Et ce qui est toujours très frappant en Inde, c'est que quand vous êtes dans un lieu de très grande pauvreté, donc qui pourrait être considéré comme anomique... Je suis d'accord avec vous, je suis en train d'en parler justement. On termine et après on parle de solidarité.
Mettez-vous par là, monsieur Sio, restez par là si vous voulez écouter la conversation, on vous en prie, installez-vous.
Et dans ces, on en reparle après. Et dans ces lieux de grande précarité de
vous pouvez rester là, monsieur. Mettez-vous juste sur le côté pour que le public.
C'est finalement dans ces lieux-là que la structure sociale en Inde tient le mieux. C'est-à-dire que vous continuez à avoir des familles qui fonctionnent extrêmement bien, avec une mère de famille qui va garer ses enfants, les enfermer souvent la journée parce qu'elle a peur du dehors. C'est dans ces lieux-là aussi que les structures de caste, les structures les pratiques religieuses, etc., sont suffisamment serrées pour que tout n'explose pas, ce qui n'est pas du tout le cas au Brésil d'ailleurs. Donc c'est une particularité de l'Inde, c'est-à-dire que les structures sociales sont tellement fortes en termes à nouveau religieuses, de caste, etc., que vous avez un tissu social qui permet de tenir. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup frappée et qui explique aussi des formes de sociabilité, de solidarité très très fortes. Décidément, c'est le jour où tout gronde.
Décidément, c'est pas facile de faire une rencontre littéraire aujourd'hui, mais voilà. on avance.
Et pour répondre directement à votre question, on est entouré de la violence du monde, je trouve ça formidable en fait. Pour répondre directement à votre question, la panique, disons, aujourd'hui indienne, c'est que le politique s'empare de tout ça et l'instrumentalise. On va attendre qu'il passe peut-être. On est en pleine guerre coloniale là.
On parle de livres politiques et la politique nous rattrape.
Non, mais je suis très sensible et je vois colonisation. Et ce que vous disiez tout à l'heure est très présent encore à Bombay et en Inde. Ce sont aussi les Anglais qui, à un certain moment, ont cristallisé, pétrifié ce monde de caste, ont créé en proposant les premiers recensements dans les années 1872. Donc ça me fait penser à ce que vous disiez. On proposait un monde avec ces structures qui sont devenues finalement des fractures sociales sur lesquelles ensuite la politique peut s'exercer. Voilà.
Peut-être un mot, je vois que le temps file très très vite, du coup on va dire un mot quand même des personnages féminins, vous l'avez évoqué, il y a notamment ce personnage de Shanji qui est la mère adoptive de Shiv et qui est sans doute le symbole aussi de ceux qui luttent, de ceux qui essayent et ceux qui ont aussi une forme d'espoir pour essayer de résoudre les problèmes, notamment à partir de la question de l'éducation. Ce personnage, c'est une des héroïnes. On pourrait parler de Lalay, on dira peut-être un mot d'autres personnages, mais peut-être nous parler de la manière dont vous avez construit ce personnage-là et de ce qu'il représente, de ce qu'elle représente aussi dans l'Inde d'aujourd'hui et peut-être dans une dimension, je ne sais pas si on doit dire d'espoir, mais en tout cas de lutte.
Tout à fait. Alors moi, on m'avait expliqué, je rêvais d'écrire un roman, mais comme la plupart des anthropologues, on écrit toujours des carnets et on se dit un jour, peut-être on en fera quelque chose. Donc voilà, donc j'ai mis des années à écrire ce livre. Mais on m'avait toujours expliqué qu'on écrit un roman que quand on a eu une grande peine de cœur, une grande histoire d'amour, ou quand il y a eu un décès important, une mort importante. Et en l'occurrence, moi, ce livre a été provoqué par le décès de celle qui fut... celle qui m'a ouvert les portes de l'Inde, que j'ai rencontrée donc il y a 30 ans, Nirmala Purandare, à laquelle je dédie d'ailleurs ce livre, et qui a été une grande social worker. Alors vous allez me dire, en Inde, quand vous rencontrez des personnes, tout le monde est social worker en Inde, c'est très intéressant, les personnes se présentent souvent comme ça, c'est-à-dire, dès qu'on a un peu de moyens, disons, il y a beaucoup, beaucoup de gens très engagés, mais il y a aussi des personnages, des figures très importantes, et en l'occurrence, beaucoup de figures aujourd'hui, et ça fait l'espoir de l'Inde, qui travaillent notamment autour de ce qui me semble être la clé, finalement, qui est la question de l'éducation. Donc ce personnage de Shantiji, dans le livre, il est à peine recomposé. C'est effectivement, les autres personnages féminins sont plutôt des cristallisations de figures, de réactions de ces femmes, qui sont, comme vous le savez peut-être aujourd'hui en Inde, finalement, celles qui portent l'Inde depuis 2012. Je pense que vous avez tous, vous vous souvenez tous, de ce fait divers épouvantable, mais qui a été un déclencheur hallucinant pour l'Inde, qui est ce viol en 2012 dans un bus qui a fait que l'Inde, les femmes d'abord, et puis bien sûr beaucoup d'hommes, se sont noués ensemble pour dire stop, stop à cette société patriarcale de couvercle qui empêche finalement, au nom d'on ne sait quelle morale, une partie entière de sa population de vivre. Et c'est devenu un très grand mouvement anticorruption, etc. Donc le personnage de Shantiji, c'est la figure entre guillemets de la grande travailleuse sociale qui existe en Inde, qui elle se bat pour essayer déjà au cœur du terrain. Le cœur de l'Inde, ça reste les campagnes. Hein, 80% de l'Inde, c'est une Inde rurale. Il y a une très grande fracture entre l'Inde des villes et l'Inde rurale. Et au cœur de ces campagnes, aller éduquer les enfants, aller éduquer les femmes, c'est ce lieu où ça peut commencer à faire boule de neige et où les choses peuvent avancer. Donc c'est effectivement cette figure très puissante qui, dans le livre, elle voit ce qui se passe, voit la violence anti-musulmane, etc., avec sa sagesse, j'ai envie de dire, alors que les autres sont absolument confrontés à cette violence et vont être tout le temps dans la réaction. Elle a cette capacité à donner un peu plus de distance à ce qui se passe et à le réinscrire dans l'histoire, sachant que là, c'est vraiment de la fiction, mais j'ai rendu cette femme cousine éloignée de Savarkar, qui est le grand idéologue du mouvement nationaliste hindou violent.
Farhad, peut-être un mot sur ce rapport que vous avez effectivement avec l'Irak et notamment avec l'enfance du père qui est raconté. Il y a deux choses qui sont centrale finalement dans son parcours de jeunesse avant son départ. C'est à la fois un drame personnel, un drame humain qui est la perte de sa mère, et puis c'est ensuite la dimension plus politique effectivement de la lutte qui est la sienne par rapport au régime en place. Là aussi on est entre l'individuel et le collectif. Peut-être nous parler un peu de cette dimension-là que vous remettez au jour, qui est quelque chose que peut-être le lecteur français, moi en tout cas, connaissait très très mal. Est-ce que c'était une volonté aussi de remettre au jour, de rendre visible aussi cette lutte qui a eu lieu dans cette période-là?
Oui, tout à fait, parce que je pense qu'on ne connaît pas l'Irak. Dans l'actualité, l'Irak est traité, et c'est normal, en grande partie, à travers le prisme de la guerre, de la violence, mais on ne remonte jamais, ou très rarement, plus loin que la guerre Iran-Irak, qui a commencé en 1980. Et puis, on résume souvent l'Irak et son régime dictatorial, celui de Saddam Hussein, à cela. Mais avant cette période, avant les années 70, il y a tout un processus politique très violent qui a quelque part enfanté Saddam Hussein. Donc, encore une fois, ce n'est pas un roman historique, mais j'ai tenu à travers l'histoire du personnage du père, donc Rami, avec son drame familial, qui effectivement perd sa mère et puis voit l'arrivée d'une marâtre qui le maltraite. Mais tout cela se passe dans les années 50. Les années 50, c'est fascinant en Irak. Et ça explique énormément de choses sur l'Irak d'aujourd'hui. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais l'Irak a été à un moment donné une monarchie sous mandat britannique qui, un jour, a cédé face à une révolution qui a eu lieu le 14 juillet aussi en Irak, le 14 juillet 1958. Et le personnage du père, Rami, comme mon père dans sa vie, a été entraîné dans ce mouvement. Il avait 14 ans. Mon père me disait souvent, j'ai fait de la politique à l'âge de 14 ans, malgré moi, parce qu'en gros, il a vu une foule arriver vers lui avec des slogans. Il a entendu la Marseillaise, il a entendu des slogans communistes, révolutionnaires, etc. Et en fait, j'ai tenu à peindre un peu cette période pour expliquer tout le processus, je me répète un peu, mais le processus politique très violent qui, malgré cette révolution qui a ouvert, je dirais, une année ou deux années de débats contradictoires, politiques, avec des espoirs de démocratie, très vite, ça s'est refermé avec un coup d'État, en 63, un coup d'État fait par le parti Baas, le parti de Saddam Hussein, puis une succession de coups d'État jusque l'arrivée au pouvoir de Saddam Hussein. Donc, je ne sais pas si je réponds concrètement à la question, mais en fait, ça me tenait à cœur, toujours dans cette histoire humaine, personnelle, d'un personnage qui est enfant à l'âge de 7 ans, perd sa mère. Mais derrière, j'ai l'espoir qu'à la lecture de ce livre, on en comprenne un peu plus sur l'histoire de l'Irak et sur pourquoi l'Irak aujourd'hui est dans ce maelstrom, dans ce tourbillon de violence.
Ça pourrait être aussi presque une histoire Orient-Occident, si j'exagérais le trait, parce que vous avez parlé du mandat britannique, il y a évidemment une dimension occidentale très forte dans l'histoire de l'Irak. Et puis il y a de l'autre côté, effectivement, ce jeune homme né en France, de parents irakiens, qui, d'une certaine manière, se pose énormément de questions, précisément sur ses origines, sur sa double culture, sur la manière dont il s'inscrit dans un pays comme la France. Il y a quelque chose qui a à voir aussi avec ce va-et-vient dans les deux époques, finalement.
Oui, tout à fait. La dualité est présente tout au long du roman. Évidemment, la dualité père-fils, le miroir déformant entre l'enfance du père terrible jusqu'à être jeté en prison sous Saddam Hussein et être torturé, et puis la trajectoire d'un enfant qui a grandi en France, qui a fait une simple garde à vue, donc il y a la thématique de l'enfermement, c'est évidemment très différent des geôles irakiennes. Et donc cette espèce de dualité est présente dans toutes les thématiques. Il y a quelque chose, et c'est pas forcément volontaire, mais je m'en suis rendu compte quand j'ai terminé l'écriture de ce livre, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre du conte aussi, le bien, le mal. Le côté très polarisé aussi d'une situation irakienne assez complexe que j'ai tenu peut-être à simplifier en utilisant ce biais. Et voilà, il y a toujours cette démarche d'essayer de contextualiser, d'expliquer ce que très souvent on rejette parce que trop complexe. Et donc je vous rejoins dans cette analyse, si je puis dire, que en fait, tout est dualité dans ce roman, et ça me tenait à cœur. Et c'est pour ça aussi que cette discussion entre le père et le fils distribue aussi des périodes de l'histoire tout au long du récit, quoi.
Je vois que le temps file très vite. Une question à chacun, et puis ensuite, je me tourne vers le public. Yann, on n'a pas parlé du personnage de Marie, et on n'a pas beaucoup parlé du Marais, à part pour dire que vous le traitiez façon Sergio Leone. Peut-être nous parler du personnage de Marie. Là aussi, on ne va pas divulgâcher pour ceux qui n'ont pas lu le livre, mais c'est un personnage extrêmement important. Il y a de la force, et c'est peut-être finalement celle qui est, celle qui est porteuse d'espoir, ou celle qui est porteuse d'un avenir meilleur, d'une certaine manière. En tout cas, quelque chose de cet ordre. Peut-être pouvez-vous essayer de nous parler de ce personnage-là.
Oui, et celle qui bouge le moins, finalement. Marie, donc, c'est une jeune femme qui a grandi au bord des marais, dans cette région du Médoc, là, qui est donc une région extrêmement pauvre à cette époque-là. C'est encore une région pauvre, en réalité, aujourd'hui. Et à cette époque-là, s'ajoute à la pauvreté les maladies qui sont dues, notamment... aux problèmes des marais, au paludisme, au choléra et toutes les maladies qui vont avec tout ça. Elle a grandi là et elle rêve d'ailleurs. Elle veut partir très vite et elle va tenter cette fuite. Elle va à Bordeaux, qui est la ville la plus proche et qui est la ville la plus ouverte sur le monde, vraiment, à travers son port, avec des rêves. Et qui se fracasse assez vite quand elle arrive là-bas. Et donc, elle doit fuir de Bordeaux, venir se réfugier, et on va l'envoyer encore plus loin à l'intérieur de ces terres désolées. On va l'envoyer de l'autre côté des marais et des étangs, dans les dunes, qui sont à l'époque des dunes mouvantes. C'est le désert du Médoc, il y a quelques bois. Mais sinon, c'est des dunes qui, l'hiver, se gorgent d'eau. Il y a des sables mouvants et c'est peuplé par des bergers, par des résiniers qui exploitent donc la résine des quelques bois de pin qu'il y a là. Et tous ces gens-là étant à l'occasion aussi pilleurs d'épaves, allant ramasser ce qui arrive sur la côte. Donc c'est un endroit extrêmement rude. Et elle va se retrouver là sous la coupe de son oncle, qui tient le bazar, épicerie, un peu tripot de cette communauté, et qui fait de la contrebande, et auquel elle va se confronter finalement, puisque lui veut la tenir sous sa coupe, et elle, justement, elle a déjà essayé de fuir, ça s'est mal passé, et elle a envie d'être sous la coupe de personne, mais en même temps, elle ne peut pas partir. Et ce naufrage, ça va être l'occasion pour elle de défier son oncle et peut-être de s'émanciper dans cette société extrêmement figée et violente qui existe à cette époque-là. On a beaucoup de récits, et notamment celui de Claude Masse, ce cartographe dont je parlais tout à l'heure, qui, dans ses textes qui accompagnent les cartes, explique que les gens de cette région, ces Médocains, sont plus barbares que les pires tartares. Voilà. Et qu'il est très, très déconseillé de leur tourner le dos quand ils ont une hache à la main. Voilà.
Marie, peut-être une petite question. Je l'ai évoquée en introduction en disant qu'on était sidéré devant la description que vous faisiez de ce bidonville, de cette déchetterie. Il y a des scènes même qui nous paraissent peut-être sortir de l'imagination de l'auteur. Et pourtant, hélas, je crains que ça soit la réalité. Je pense à cette scène presque d'engloutissement par les déchets, la vague qui déferle comme ça, remplie effectivement de déchets. C'est quand même une mesure, une échelle proprement sidérante. Vous avez visiblement travaillé sur ces lieux-là. C'est hélas la réalité de ces lieux-là que vous décrivez dans ce livre. Ça n'est pas de la fiction.
C'est bien sûr pas de la fiction, et en Inde, c'est le propre de l'Inde. En Inde, la réalité dépasse la fiction. La puissance et la force de la nature dépassent les dimensions humaines. Je pense que c'est pour ça aussi que la question du sacré est si puissante aujourd'hui encore, de cette manière. On est absolument dépassé, envahi par la force, par les dimensions, d'abord naturelles, ensuite humaines. Et tout ce que je décris est une pâle copie de la réalité. Donc Bombay qui se transforme en Atlantide avec les moussons, et vous en avez jusqu'aux cuisses, et vous voyez toute la ville partir dans, voilà, devant vous. Ça, c'est moi, je l'ai vécu à chaque. J'ai vécu longtemps en Inde et j'y vais chaque année. C'est la dimension de, à nouveau, la force. Il y a quelque chose de complètement tellurique. Et Bombay, à cette, j'ai envie de dire, rassemble ça comme un entonnoir absolument sous pression sur cette espèce de presqu'île. Qui a tenté de dévorer un petit peu de terre, d'arracher la terre à la mer, comme le dit un joli poème de Kolhatkar, et qui, puisque une partie de Bombay entière est, ce sont des reclaimed lands, c'est vraiment des terres qui ont été creusées, construites sur la mer. Vous savez que Bombay, c'est 7 îles au départ. Et donc là-dessus, vous avez une population aujourd'hui de 15 millions qui est greffée, qui cherche son espace vital et qui, à chaque déploiement des forces furieuses, qui vont d'ailleurs souvent être interprétées comme des puissances de l'invisible, se font absolument renverser pour d'autres destins, quoi. C'est ça l'Inde, et c'est ça l'Inde avec une forme contemporaine aussi de diable qui est celui de la politique. Donc il y a quelque chose là qui est systématique quand vous avez donc ce tsunami des vagues de déchets, c'est bien sûr une réalité. L'incendie de la plus grande décharge de l'Inde, c'est assez récent. Le Bombay et les moussons, c'est un j'ai les images là sur mon téléphone des poissons à travers les rails des trains qui traversent Bombay. C'est Bombay, oui, et l'Inde.
Vous dites d'ailleurs à un moment donné que vous écrivez que c'est à la fois un lieu de fange et aussi un lieu de beauté et de splendeur. Et on pourrait peut-être dire la même chose d'ailleurs de l'Irak et de Fallujah. Il y a évidemment aussi des termes qui, pour nous occidentaux, ont à voir avec la guerre, la violence, avec ce qu'on peut entendre de loin. Et en même temps, c'est aussi un livre qui dit l'enfance, le rapport aux sensations, à la beauté, à la douceur d'une certaine manière. C'est aussi ce contraste-là. Je ne vois que contraste dans votre livre, mais il me semble qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi autour de la manière dont vous évoquez ce pays et cette ville en particulier.
Oui, c'est exactement ça, ce contraste et aussi ce rapport à la mémoire et au passé, parce que vu de l'Occident, Fallujah, c'est cette ville qui en 2004 a résisté contre l'armée américaine et qui ensuite a été détruite et ensuite Al-Qaïda a pris la ville, puis l'État islamique. Donc Fallujah aujourd'hui a une connotation très guerrière et négative. Mais le Fallujah que moi j'ai vu quand j'étais enfant en 89, la seule année de paix de ces 40 dernières années en Irak, était une ville que je comparais à la Normandie, enfin une région que je comparais à la Normandie, avec un fleuve qu'on appelle l'Euphrate, qui est un fleuve mythique. Enfin, c'était une ville très charmante. Et c'est compliqué de faire comprendre ça quand on voit comment Fallujah est traité aujourd'hui. Donc ce contraste-là est important dans le roman. Revenir dans le passé pour raconter ce qu'était en fait Fallujah, c'est important. Je pense que c'est important de rendre une part de vérité, même dans la fiction, en fait. La fiction, alors là, j'adore citer les phrases, mais la fiction, je crois que c'est Jean Cocteau qui disait que le roman est un mensonge qui dit toujours la vérité. Et ben, dans ce mensonge, dans cette fiction que je dépeins d'un Fallujah que je n'ai pas connu, moi, le Fallujah des années 50, ben, y a une part de vérité, c'est que Fallujah était une ville normale avant de sombrer.
Et c'est aussi des romans qui sont des histoires d'amour, mais on n'a pas eu le temps d'en parler, mais peut-être aura-t-on l'occasion dans d'autres conversations d'en dire un mot. Je me tourne vers vous, les uns et les autres, si vous souhaitez prendre la parole. Je sais que vous êtes nombreux à avoir lu ces livres, mais même si ce n'est pas le cas et que vous souhaitez apporter une précision, poser une question, c'est le moment. On vous fait passer un micro, si tel est le cas. À moins que vous vouliez qu'on parle d'amour, hein, c'est possible aussi. Allez-y, monsieur, on vous fait passer le micro.
Oui, Yann Lespoux. Pourquoi vous faites-vous déshabiller les Portugais aux Comores ?
Parce que c'est vraiment arrivé, en fait. On a un récit de ce naufrage aux Comores et les survivants se retrouvent sur une plage Et là, les habitants de cette partie des Comores arrivent et décident de les dépouiller, mais vraiment de pied en cap. Hein. Et donc, ils se retrouvent tous nus comme au premier jour, obligés de cheminer sous le soleil pendant des jours avant de pouvoir passer sur le territoire d'un autre clan qui va les recueillir. Mais ça arrive, c'est réellement arrivé et c'est un événement qui me paraissait intéressant, en plus, d'autant plus qu'il met en scène Manuel de Ménessès, qui est ce capitaine général de la flotte dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un personnage extrêmement fier et droit. Et la seule fois de sa vie où, dans les récits que l'on a, où il s'effondre, c'est à ce moment-là, c'est quand il se retrouve nu comme un ver devant ses hommes sur cette plage des Comores.
Merci pour cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions ? Oui. Si vous voulez bien, voilà, dans le fond là-bas.
Test.
Allez-y, je vous en prie.
Bonjour, c'est une question pour Ferhat. Vous avez dit à un moment, vous avez parlé des trois temporalités de votre roman. Juste avant, vous aviez parlé de votre volonté de rendre le livre pas trop difficile à suivre. Est-ce que vous pouvez m'éclairer un peu là-dessus ?
C'est une très bonne question, merci, parce qu'en fait, moi-même en tant que lecteur, il m'arrive souvent d'être perdu dans la chronologie. Un livre, un roman en particulier, se raconte de mille manières. On n'est pas obligé de suivre une chronologie, justement. Et tout à l'heure, Yann a mentionné un roman graphique, le premier livre que j'ai sorti, qui s'appelle Le Parfum d'Irak, où là, pour le coup, la ligne est très claire, c'est une chronologie de mes souvenirs. Là-dessus, j'ai voulu d'abord, sincèrement, pour me faire plaisir, j'ai voulu casser un peu cette structure. Et puis ensuite, derrière, j'ai essayé de... Enfin, c'était compliqué, hein, mais de m'imaginer à la place du lecteur ou de la lectrice et d'essayer de ne pas là ou le perdre. Parce que trois temporalités, c'est pas évident. Il y a l'enfance du père et l'enfance du fils, et puis il y a cette conversation dans la chambre. Et dans l'écriture, la structure, je sais pas si mes collègues vont me contredire, mais enfin, je pense que vous seriez d'accord. Moi, j'ai passé un temps fou sur la structure, comment raconter une histoire, parce que les éléments ne suffisent pas. On est dans un roman, on est dans de la fiction, c'est pas un récit journalistique pour ma part, c'est pas du tout ce que j'ai voulu faire, et donc j'ai mis peut-être des mois avant d'être satisfait de cette temporalité. Et je dois dire que dans la majorité des retours que j'ai de lectrices et de lecteurs, très souvent on m'a dit « ça m'a fait peur, mais finalement j'ai compris ». Et donc ça, pour moi, c'est un succès. Merci pour cette question.
Oui, puis il y a cette idée du désordre de la mémoire aussi, l'absence de chronologie à avoir avec la manière dont les souvenirs affluent.
Exactement,
et pas forcément dans le sens...
La mémoire n'est pas forcément chronologique. Elle vient par une odeur, par une phrase, par une pancarte, par tout un tas de détails, en fait. Donc voilà, j'essaie de restituer ça aussi.
Est-ce qu'il y a peut-être encore une question ? Vous pourrez dans la foulée retrouver bien sûr les trois auteurs pour un temps de dédicace juste derrière dans la librairie. Mais si vous souhaitez encore une question.
Allô, oui.
Allô, on vous entend.
J'aimerais avoir quelques infos sur la BD. C'est hyper intéressant d'avoir choisi de faire une BD derrière. Moi, je ne savais pas, j'ai découvert ça ici. Merci,
Vous parlez de la BD, parce qu'il y a le roman graphique qui s'appelle Le Parfum d'Irak, et il y a une BD reportage qui s'appelle Fallujah, ma campagne perdue.
Voilà, Fallujah.
Qui est sortie avant le roman.
Ah,
et là, on est dans une pure BD reportage, on n'est pas du tout dans le roman. Et j'ai voulu... en fait, Fallujah m'obsède, évidemment. Moi, j'ai vu Fallujah, j'avais 8 ans, et cette ville ne m'a jamais quitté. Elle représente beaucoup de choses pour moi, elle représente mon père, ma mère... mon travail de journaliste parce que j'ai commencé en Irak, etc. Et je continue à explorer en fait cette ville pour plein de raisons, mais aussi parce que je refuse l'amnésie collective sur cette histoire tragique qu'a subi Fallujah. On a vu une manifestation défiler pour Gaza. Il y a énormément de points communs avec Gaza. Je suis allé à Gaza plusieurs fois pour des reportages et j'ai vu beaucoup de similarités avec cette ville. Et c'est très bien qu'on parle de Gaza parce que c'est au cœur de l'actualité. On est au cœur de l'horreur à Gaza. Mais Fallujah en 2004, c'était Gaza. C'était également une ville complètement détruite. Et il y a une part de l'histoire qui a été occultée. C'est les conséquences des bombardements américains dans la ville après le départ des troupes. Et c'est là-dessus que je me suis focalisé dans cette BD. Ce n'était pas pour raconter, encore une fois, la guerre de Fallujah, mais raconter l'après-guerre. Qu'est-ce qu'il se passe lorsque les gens s'en vont, lorsque les troupes, les militaires s'en vont et que la population reste. Et Fallujah, c'est terrible, en fait. Cette BD, alors je ne vais pas faire l'histoire de la BD, mais on compare en fait la toxicité de la ville à cause des bombardements à Hiroshima pour un mois, deux mois d'engagement militaire dans la ville. C'est dire à quel point cette ville a été complètement détruite et annihilée, en fait. Les habitants, aujourd'hui, vivent dans une ville toxique. Et cette BD reportage donc, n'est pas un roman, et elle se concentre uniquement sur cette enquête de l'après-guerre. Pardon, j'étais un peu long, mais c'est une enquête journalistique, en fait. Voilà.
Peut-être une dernière question à Yann, et d'ailleurs Marie, je pourrais vous poser la même question. Je disais tout à l'heure, on parle de roman politique et la politique nous rattrape. C'est évidemment pour vous, Yann, un temps très lointain, mais en même temps, on peut le lire avec des échos très forts avec le contemporain. Quand on imagine comme ça, qu'on visualise effectivement ce marais du Médoc, extrêmement pauvre, et qu'on y voit passer devant ces bateaux, cette flotte remplie d'argent, on pourrait presque penser à l'inégalité de la mondialisation aujourd'hui, ou quelque chose de cet ordre. Est-ce que ça, c'est, vous l'avez en tête? Est-ce que c'est finalement quelque chose qui surgit avec la description? Comment vous l'envisagez, cette chose-là?
Ça surgit en écrivant le récit. Parce que, déjà, d'une part, effectivement, c'est pas parce qu'on est en 1627 que le monde est si différent de celui d'aujourd'hui, je pense. Et les hommes, en tout cas, sont tous les mêmes, sont toujours les mêmes. Et puis par ailleurs, quand on écrit, et même si on écrit sur 1627, on n'écrit jamais que depuis le 21e siècle, que depuis le moment où on écrit. Moi, j'ai écrit ce roman en 2021, 2022. Je suis quelqu'un de mon temps aussi. Et donc, naturellement, il y a aussi ma perception des choses dans ce roman. Et même si j'essaie de m'appuyer sur des sources historiques, etc. Ça reste du roman, ça reste de l'histoire. C'est moi qui la raconte. Et moi, je suis ici maintenant.
Pour vous, Marie, c'est encore plus direct, puisqu'on est dans un temps beaucoup plus contemporain. Mais il y a évidemment une dimension... Vous évoquiez au tout début de la conversation la manière dont l'Inde évolue aujourd'hui, et peut-être que poser ces jalons-là est une manière aussi de dire l'évolution des choses, de dire le présent. Comment vous envisagez cette dimension-là ?
Oui, et puis on a beaucoup parlé d'histoire, de mémoire et de trauma. Alors, c'est aussi, à mon avis, très présent dans mon livre, avec quelque chose que j'aimerais dire en plus, qui est que je pense, oui, que l'Inde est en train de vivre un moment historique au sens, enfin, avec un grand H, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu... Il y a des jalons dans l'histoire de l'Inde. Il y a eu le rêve néruvien d'une Inde séculariste, c'est-à-dire les laïcs, où tout le monde, toutes les minorités, toutes les religions, toutes les castes, pouvaient se rassembler pour un pays qui commençait son indépendance. Et là, on est à un moment où, historiquement, c'est la fin de ce rêve et une proposition complètement différente qui est un pays où l'Inde est hindoue. Et je pense qu'il y a quand même un peu, quelque chose d'hyper contemporain. On saura le 9 juin ce qui se passe, j'ai envie de dire, mais qui fait que toutes les personnes qui travaillent sur l'Inde, je pense, ont un sentiment de basculement historique, même si on ne sait que bien longtemps après, finalement, tout ce que ça a voulu dire. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la catastrophe historique quand même, oui.
Bien, écoutez, on va s'arrêter là-dessus. On a parlé donc du livre de Yann Lespousse, Pour mourir, le monde, c'est chez Agulot. Le livre de Marie Saglio, Bombay, chez Serge Safran. Et le livre de Ferhat Alani, Je me souviens de Fallujah, chez Lattès. Je vous invite à les retrouver tout de suite à la librairie. Bon festival et bonne suite de journée.